et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui.
Vous êtes psychologue et éducateur à la vie. Vous intervenez depuis Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Il n'est pas toujours facile à certains parents de parler de la sexualité à leurs enfants à cause de certaines considérations culturelles. C'est un sujet tabou. Et pourtant, bien d'entre eux savent qu'il est important d'offrir une éducation sexuelle de qualité à leurs enfants afin de leur éviter un comportement sexuel irresponsable. Alors, quoi dire à ces filles et comment le dire? À quel âge le faire, Isidore?
Oui, merci Jody. Je crois que c'est un sujet délicat tel que vous le dites là, et que beaucoup de parents se trouvent dans l'embarras. Je pose justement les questions que vous venez de poser. Est-ce qu'il faut aborder ce domaine avec nos enfants? Et s'il faut l'aborder, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut vraiment trouver comme sujet sur lequel on doit s'entretenir? Mais je crois que si les parents ont le souci d'assurer à leurs enfants une bonne éducation, ce domaine-là ne doit pas être mis de côté. Il faudrait que les parents trouvent des mots, il faut que les parents trouvent leur courage pour pouvoir aborder les questions qui arrivent à la fille puberte ou à la fille adolescente. Vous avez dit à quel âge le dire. Moi, je ne veux pas dire seulement attendre l'âge de l'adolescence. La sexualité, c'est toute la personne. C'est depuis son petite enfance. C'est depuis... l'âge questionnaire où l'enfant pose parfois des questions ayant trait aux organes génitaux. Je crois que les parents qui sont prudents et sages commencent à ce moment-là à donner quelques bribes de réponses aux enfants de telle manière que les enfants s'habituent à leur parler et même à leur soumettre des problèmes intimes comme étant liés à la sexualité. Mais vous savez, quand la fille arrive à l'âge de la puberté, elle connaît tout le bouleversement dans le corps, tout ce changement-là, ça mérite que l'enfant ait des informations et que l'enfant soit informé avant que les événements n'arrivent. Si je prends le plus grand des événements, la menstruation, je crois que la fille qui a 11 ans, dès que les parents se rendent compte que le sang commence à pousser sur sa poitrine, je crois que les parents doivent dire à cette fille que bientôt là, tel événement va vous arriver. Il ne faut pas vous ébranler, il ne faut pas vous étonner. C'est un événement naturel, ça arrive chez n'importe quelle femme. Et voilà quelle attitude il faut avoir, et voilà les pratiques qu'il faut. À ce moment-là, les autres questions sur la sexualité, peut-être faciles à aborder.
Donc il faut commencer par annoncer à la jeune fille l'arrivée prochaine des règles et comment le dire et qui doit le faire entre le papa et la maman. Il revient à la maman absolument de pouvoir faire ce travail où le papa également peut s'impliquer.
Bon, je pense que la maman, c'est plus facile. Vous n'avez qu'à regarder dans notre environnement culturel la femme qui est plus près que des enfants, que ce soit fille ou garçon. Les papas sont souvent partis au service, ils sont dans leur parti politique, ils sont dans les histoires de sport, etc. Ils traînent longtemps dehors et c'est presque la maman qui est tout le temps avec les enfants. Donc, même entre fille et femme-mère, donc la femme qui est sa mère, je crois que le courant passe plus facilement qu'avec le papa. Le papa peut seulement veiller à ce que la mère ait donné l'information, et la bonne information, demander à la mère d'acheter le bain hygiénique qu'elle doit offrir à sa fille, vérifier chaque jour ce qui s'est passé, est-ce que l'événement est arrivé, comment est-ce que la fille a réagi à l'événement. Parce que si elle n'est pas avertie avant, le jour où ça va lui arriver, ce sera une catastrophe pour elle. Si elle est au niveau de l'école, il y a des écoles où on a raconté que la fille a tremblé de tout son corps. Elle a pensé qu'elle était blessée, elle a même pensé qu'elle allait mourir dans les instants qui venaient là. Alors, je crois que c'est désagréable qu'un événement comme celui-là vienne surprendre la fille. Si elle surprend la fille, elle va commencer à haïr le phénomène des règles dans sa vie, et désormais elle aura des règles douloureuses, ce qu'on appelle la dysménorrhée. Donc, les parents responsables veillent à ce que l'enfant soit informé avant, de telle manière qu'on la surveille et qu'on lui donne tous les principes, toutes les indications hygiéniques qu'elle doit observer.
Certains parents préfèrent laisser cette tâche aux enseignants à l'école. Il y a certains cours d'éducation à la vie où on prépare déjà la jeune fille, on communique aux jeunes filles des informations sur la sexualité.
Ah oui, il faut que cet enseignant-là soit formé. Nous connaissons des cas où il y a des écoles où les enseignants ne sont pas formés. Ils prennent par exemple les livres période prénatale, qui est destiné à la lecture des adultes, et ils commencent à raconter n'importe quoi aux enfants. Si l'enseignant-là n'est pas formé, il risque de ne pas donner ce qu'il doit donner à cette fille de 5e primaire ou de 6e primaire. Mais même alors, je crois qu'à la maison, c'est pas l'enseignant qui va acheter les bandes hygiéniques. C'est pas l'enseignant qui va surveiller si la fille se lavait deux fois pendant qu'elle fait la menstruation. La part des parents reste entière. Et il faut vraiment qu'ils donnent leur part et qu'ils contribuent à l'éducation de leur enfant de telle manière que ce que l'enfant a appris à l'école, et elle se rend compte que ça continue à la maison. En ce moment-là, il y a une éducation équilibrée.
Alors, maintenant, pour une adolescente, comment arriver à briser le silence autour de la sexualité et l'amener à avoir un dialogue régulièrement avec ses parents?
Oui, je crois que le dialogue ne va pas débuter directement sur la sexualité. Je crois que le dialogue va débuter sur n'importe quoi, tous les autres aspects de la vie. Même une simple causerie sur les événements qui se passent dans le quartier. Les parents peuvent toujours saisir l'occasion pour approcher leurs enfants et leur dire quelque chose. Donc si on vit dans cette ambiance-là, je crois que glisser vers la sexualité devient un peu plus facile. Et si entre parents et enfants, il n'y avait pas de dialogue avant, ce sont toujours des désordres, des réprimandes, des reproches qu'on adresse aux enfants. Je crois que ce sera difficile pour des parents comme ça d'aborder les questions ayant trait à la sexualité. Donc il faut créer cette ambiance depuis. Et si quand la fille arrive à cet âge et qu'on doit lui donner des informations sur la sexualité, il aura peut-être moyen.
Voilà, il y aura peut-être moyen, mais il y a certains parents qui arrivent même à taper leurs enfants quand les enfants posent des questions sur la sexualité. Ils tapent et puis ils menacent que ça soit la dernière fois. Je ne veux plus t'entendre parler de ce genre de sujet.
Ah, je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. D'abord, on ne doit pas réprimander l'enfant quand il pose des questions, mais aller jusqu'à taper, je crois que c'est une grave erreur. Les parents qui se comportent comme ça ont créé un fossé entre eux et les enfants. Et les enfants vont recevoir les informations dans un domaine aussi délicat que la sexualité. Ils vont recevoir ces informations-là sur la rue. Et la rue ne dit que jamais. Je crois que la rue ne dit que jamais. Et en ce moment-là, on verra la fille se comporter de telle ou telle autre manière. Et il sera un peu tard pour la récupérer. Je crois que les parents doivent réunir leur courage. S'armer aussi d'un peu de patience et d'humilité pour approcher leur enfant, parce qu'il n'y a pas que les règles dont on doit parler en ce moment-là. Je crois que les parents avertis doivent se rendre compte que quand les règles surviennent, c'est-à-dire qu'il y a l'urissement d'ovules dans le cycle féminin de la fille, et quand l'ovule est mûre, qu'il est introduit dans le trompe, si la fille a été entraînée vers la débauche, elle peut en sortir avec une grossesse. Je pense que cette information est aussi vraie et importante. Il faut que les parents éveillent l'esprit de la fille, qu'elle ne se laisse pas tromper par les garçons. Parce que c'est la période où les pulsions sexuelles montent, et les garçons montent des histoires de toutes pièces. Il y en a qui vont même proposer le mariage, juste pour entraîner la fille vers la débauche. Dès qu'on l'a connue, on l'abandonne. Et on devient même... ceux qui découragent un candidat potentiel qui viendrait pour prendre la fille à mariage.
Il y a certaines mamans qui disent à leur fille, faites attention avec les garçons, c'est des menteurs, les garçons, ils racontent des bobards, tout ça. Et après, la fille développe une certaine antipathie envers les garçons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de procéder?
Bon, je pense qu'il faut vraiment bien présenter les choses. Parce qu'absolument, à cet âge-là, 13, 14 ans, je crois qu'on ne va pas s'approcher de la fille pour lui proposer le mariage, c'est très tôt. Je crois que les garçons qui tournoient aussi autour sont des adolescents. Il faut seulement aider la fille à avoir un esprit critique, un esprit d'analyse, dans ce qu'on lui dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon. Si elle est habituée à analyser, mais si elle est aussi habituée à échanger avec les parents, de telle manière quand elle rentre à la maison, elle dit, écoute maman, aujourd'hui tel garçon m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? En ce moment-là, je crois que la mère, qui pourra aussi informer le père par après, ils prennent une stratégie d'ensemble et ils peuvent corriger ce que la fille a entendu sur la rue.
Mmh.
Bon, mettre tout le monde dans le sac de menteurs, je crois que c'est imprudent. C'est imprudent. La fille verra dans chaque garçon un menteur.
Mmh.
Et même quand on viendra lui proposer un projet réel de mariage, elle va verser ça sur le mensonge dont sa mère lui avait parlé.
Elle devient méfiante.
Elle risque de ne pas s'engager.
Voilà, donc il faut faire la part des choses, il faut bien présenter les choses. Mais nous savons que lorsque les jeunes adolescentes et les jeunes bien se regrouper, se retrouver en groupe, des copines, des amis à l'école, au quartier, et se racontent des tas de choses, alors est-ce qu'il faut toujours vérifier le soir ce que les enfants se sont dit la journée et comment l'amener à dire tout ce qu'elle a entendu?
Ah oui, ça c'est une bonne question, je dis. Je crois que ce que les parents doivent faire, c'est mettre les filles en confiance. Et même lui dire, tu sais, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es intelligente, nous savons que tu es bien appliquée, tu nous respectes, tu nous aimes. Nous nous aimons aussi, nous voulons que tu réussisses dans ta vie. Mais si jamais il y a dans le groupe quelque chose qu'on a dit pour lequel tu n'es pas d'accord, fais confiance, tu viens nous dire, tu viens nous raconter. De cette manière-là, il devient facile à cette fille de revenir à la maison et de dire aux parents, écoutez, avec les copines aujourd'hui, voilà ce qu'on a raconté. Et s'il n'y a pas ce climat-là, même si les parents veulent vérifier par après, la fille va se cacher, elle va développer l'esprit de fugue, c'est-à-dire qu'elle va fuir l'autorité des parents, elle sera de plus en plus solitaire, et à ce moment-là, elle cache ses propres problèmes. Et les deux cours évoluent normalement déjà compliqués. Pourquoi? Il faut d'abord installer un climat de confiance, confiance mutuelle. Or, quand les parents réagissent devant les enfants, c'est souvent pour les dire, vous les enfants d'aujourd'hui, nous à notre époque, c'était pas comme ça. Quand les enfants écoutent ça régulièrement, les enfants se disent, bon, nous ne nous allons rien pour nos parents, donc nous ne pouvons pas nous approcher de. Nous ne pouvons pas leur confier nos secrets. Donc, il faut installer un climat de confiance qui fait que la fille va aller vers les parents, et même si les parents lui posent la question, il y a possibilité que la fille s'ouvre.
Bien, Isidore Mamanaï, dans certaines familles, lorsque une jeune fille tombe enceinte, le papa qui revient le soir, lorsqu'il apprend la nouvelle, il est en colère et il incombe toute la responsabilité à la maman et certains arrivent même à chasser la mère et la fille de la maison. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'éducation sexuelle de la fille revient seulement à la mère ou c'est une affaire de couple?
Je crois, je dis que c'est une affaire de couple. Même si c'est la maman qui, dans l'intimité, parle avec sa fille, le père n'est pas en dehors. Il doit savoir ce qui se passe entre sa femme et sa fille. De toutes les façons, il est informé de ce qui se passe. De telle manière qu'il puisse lui aussi dire, non, ici je crois qu'il faut rectifier comme ça, il faut lui parler de telle manière. Il n'est pas en dehors. Il ne faut pas que l'histoire de la grossesse vienne le surprendre. Oui, c'est vrai, c'est une surprise. Ça peut être une surprise aussi pour la mère. Parce que parfois, on aura tout dit à la fille, mais on peut la tromper pour un 200 francs, pour un 500 francs, ou parce qu'elle a besoin d'acheter un soutien-gorge et d'acheter des sous-vêtements et qu'elle n'a pas demandé l'argent aux parents. Un garçon peut l'accrocher et lui dire, voilà, tu prends 5 000, tu vas acheter ce dont tu as besoin.
Mmh.
Et on l'a trompé, ici, elle se retrouve enceinte. Mais même si c'est déjà arrivé, bon, je ne crois pas que le père doit verser toute la responsabilité de l'éducation sur la mère. Les deux ont un rôle à jouer et ils doivent se compléter à tout moment. Le père comme le chef de famille, comme celui qui représente l'autorité, comme celui qui édicte les principes, comme celui qui surveille pour que les principes soient bien compris est bien exécuté.
Mmh.
Il ne doit pas se mettre à distance. Et la mère, si dans le cas de la sexualité avec sa fille, le père a une oreille attentive. S'il est capable de déguiser un mot avec sa fille, pourquoi pas? Déguiser un mot avec sa fille. De toute manière que si ça arrive, bon, si la fille a avoué que c'est arrivé, je crois que c'est pas le moment de divorcer. C'est plutôt le moment de chercher à gérer la situation.
Mm-hmm.
Et peut-être comprendre que c'est arrivé. C'est dire ce que je dis là. Mais comprendre que c'est arrivé, on ne peut pas faire un pas en arrière. Vous savez, la vie, elle roule toujours. Le véhicule de la vie n'a pas de vitesse de marche en arrière. C'est toujours en avant. On continue chaque jour.
Voilà.
C'est que chaque jour, il faut corriger, il faut vérifier ce qui se passe dans sa maison.
Bien, nous parlons aujourd'hui de comment parler de la sexualité à ces jeunes-ci. Isidore Bamanaï, psychologue et éducateur à la vie, et l'invité de Capi Service. Si vous avez des questions, appelez-nous. Kojak est déjà en ligne depuis Mbandaka. Vous voulez également intervenir. Composez le 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment parler de la sexualité à ces jeunes-ci? Kojak, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste et à notre invité du jour.
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, je voudrais poser une question, monsieur le savoir, à notre invité. Comment prévoir s'il y a la prévention à un adolescent qui n'a pas vite postérieure, mais avant l'âge prévu, et est-ce qu'il y a des signes un peu plus antécédents, et il faut prévoir si tu vois comme ça, il faut faire comme ça, et avec ça, il peut toujours être elle peut toujours être en précaution avec sa continuité de vie. Et la deuxième question que je voudrais poser, pour les lesbiennes, comment faire, est-ce qu'il y a des conséquences entre les deux filles, est-ce que le rapport sexuel entre elles, quels sont les conseils qui ont été formulés par rapport à ça?
Merci, Kojak. Théodore, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel.
On vous écoute.
Vous savez que la sexualité est enseignée même à l'école à travers le branche de biologie à partir du troisième secondaire.
Mmh.
On enseigne déjà cette branche.
Mmh.
Et pour moi, c'est à partir de 10 ans aussi. Et la fille, elle doit éviter de mauvais jeux à partir de sa maman et moi-même. Je dois payer à cela.
Mmh.
Et il y a des périodes de règles qui doivent arriver. Et si ça arrive comme ça, l'homme, en passant, j'ai acheté des bandes uniques. En achetant ces bandes, j'amène à la maman. La maman peut l'utiliser et parler avec sa fille. Mais à la maison aussi, tout comme à l'église, à l'âge de 18 ans, on doit apprendre à la fille à garder son corps pur jusqu'au mariage.
Mais c'est un
genre. Adolescent, par exemple, 18 ans.
Théodore.
Oui.
Est-ce que vous êtes souvent à l'aise vous-même quand vous parlez? Est-ce qu'il vous arrive de parler de la sexualité avec votre fille? Êtes-vous à l'aise ou embarrassé?
Vraiment embarrassé, c'est surtout je passe à sa maman. Quand je parle un peu, je clique un peu et la maman reste continuer.
Oui.
Et à 18 ans déjà, vous voyez, à l'adolescent,
Okay,
la fille doit garder sa purité. C'est ce que je dis, selon Guillemin, vous savez, c'est notre devoir, nous devons dire à la fille de garder d'abord la virginité sacrée. Parce qu'à partir de cette virginité sacrée, c'est du tout donner à cette fille l'honneur. On donne à cette fille l'honneur de sa famille, et puis deuxièmement, il y a la féminité sacrée. Quand il y a la féminité sacrée qui est liée au corps de la fille. Vous voyez, il y a d'autres filles qui sont habituées, il y a les baisers, les bisous qui se font, tout ça entre copains copines.
Mm-hmm.
Et selon Benjamin, nous disons la fille ne peut pas.
Je peux pas faire
le premier baiser seulement à son mari qui va le prendre en mariage.
Oui.
Et pour terminer, il y a la maternité sacrée. Là-bas, en tout cas, cette fille, quand elle sera mariée, le premier enfant, c'est seulement avec le mari qui, le premier mari, qui peut avoir l'enfant.
Théodore.
Oui.
S'il arrivait, bon, on ne souhaite pas que votre fille tombe enceinte et aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée, qu'allez-vous faire?
Ah, là, c'est une déception pour moi, je les renvoie immédiatement, donc c'est grand-parent. Là, je l'abandonne carrément, c'est vraiment déplorable.
C'est déplorable, merci Isidore Manaï.
Oui, merci Jody. Bon, Théodore, je commence par Théodore qui est ici à Ousmane.
Oui.
Il a donné sa contribution.
Mmh.
Je crois qu'il fait bien en glissant un mot et laisser la maman continuer avec sa fille.
Mmh.
Je crois que ça, j'encourage vraiment. Il ne doit pas rester en dehors de tout ce qui se passe entre sa femme et la fille. Donc il faut glisser un mot et puis laisser la mère continuer. Et par après vérifier avec elle. J'encourage aussi qu'il achète le banc d'hygiénique, qu'il le remet à la maman, et la maman donne à sa fille.
Mmh.
Mais quand la fille est tombée enceinte, c'est une situation délicate, peut-être elle ne l'a pas voulu. Pour beaucoup de filles, j'avoue que pour beaucoup de filles, elles se laissent tromper par ce projet de mariage qu'on vient de faire miroiter. Et la fille y croit sincèrement. Et les garçons lui disent par après, alors prouve-moi que tu m'aimes. Et qu'à ce moment-là, s'il y a une grossesse qui arrive, le garçon a déjà réalisé son forfait. Il prend la fuite et la responsabilité reste sur les parents.
Mmh.
Renvoyer la fille, ce n'est pas une solution. Si on l'a renvoyé, on a fermé la porte pour son avenir. C'est-à-dire, on a ouvert sa porte vers la prostitution. Il y a toujours lieu de la pardonner, de lui parler avec gentillesse, qu'elle reconnaisse sa faute, qu'elle demande aussi pardon aux parents, et qu'elle promette de ne plus recommencer. Je crois qu'à ce moment-là, elle redevient une nouvelle personne, et elle peut continuer sa vie. Mais notre ami qui est appelé de Mbandaka, soyez gentil, je dis, vous voulez me rappeler sa question, je n'ai pas bien suivi sur le portable.
Oui, la première question de Kozak est de savoir quels sont les signes qui annoncent les règles de ces une jeune fille, et comment, à quel moment on peut commencer à la préparer à cela.
Ah, les signes, s'accompagne, le signe arrive à la puberté, avec les autres signes de changement du corps. Si on voit que la fille, si la poitrine, le sein commence à pousser, on devra se dire que ça ne va pas tarder à arriver. Mais pour les règles, il y en a qui ont des signes d'un peu de douleur au bas-ventre, il y en a qui ont des signes de chatouillement dans leur petit sein là. C'est peut-être, c'est quelques signes là qu'on peut dire à la fille, et si vous sentez ça, venez me dire vite, nous prenons des précautions. En ce moment-là, les règles ne vont pas la surprendre en cours de route ou à l'école ou au marché ou à l'église.
Mmh.
Donc il faut vraiment prévenir. Dès que la fille a 10 ans, 11 ans, qu'on voit que sa poitrine commence à se développer, on devra se dire les règles ne vont pas tarder à apparaître. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre longtemps.
Voilà. Et Kozak est revenu également. Bon, il nous dit lorsque deux jeunes filles lesbiennes font des relations sexuelles entre elles, quelles peuvent être les conséquences?
Ah oui. Bon, les conséquences, je ne sais pas si les lesbiennes au Congo. Je ne sais pas. S'il n'y en a pas, j'aurais préféré dire on n'en parle pas.
Mm-hmm.
Mais s'il y a des lesbiennes au Congo, nous, en éducation à la vie, nous disons carinage. Le carinage, c'est le petit jeu d'amour là, entre les filles. C'est un jeu dangereux. La fille risque de développer des sentiments contraires au mariage. La fille va repousser les promesses ou les propositions des garçons et va se complaire à vivre ce petit jeu amoureux avec les autres filles.
Notamment.
À ce moment-là, ce beau projet de mariage risque de ne pas tellement arriver dans sa tête. Et si on est là, lesbienne, est-ce qu'on aura besoin d'avoir des enfants? Si on a besoin d'avoir des enfants, ce n'est pas entre femmes. C'est entre une femme et un homme. Mais alors qu'on a commencé comme ça, je crois qu'aller vers un homme, ça n'attire plus tellement la fille et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de risques.
Comment parler de la sexualité à ces jeunes filles? Vous avez dit que ce qui est important, c'est de créer une ambiance de dialogue, une ambiance permanente au sein de la famille. C'est ça qui va favoriser un échange entre la fille et ses parents.
Oui, c'est vraiment cela. Il y a beaucoup de parents qui commettent l'erreur de croire qu'être sévère, c'est tout le temps gueuler, c'est tout le temps gronder. Il y a des parents qui commettent l'erreur de croire que si on approche les enfants ne vont plus vous respecter, ils vont commencer à ne pas écouter ce que vous, on leur dit. Je crois que c'est une grave erreur. Les enfants sont des êtres humains. Ils sont dotés d'intelligence, de volonté et de conscience. Si à bas âge-là, on commence à nourrir leur conscience, parce que la conscience doit être nourrie, c'est la conscience qui nous aide à trouver que ceci est bon à faire et cela est mauvais à laisser. Et les parents approchent les enfants pour leur parler de bonnes choses, des choses justes, des choses vraies et des choses belles. Et je crois que petit à petit, la conscience de cet enfant est nourrie et l'enfant aura confiance dans ses parents. Il va s'approcher de ses parents. Dès qu'il a un problème qui le préoccupe, il s'approche de ses parents. À ce moment-là, je crois que glisser vers la sexualité n'est plus tellement une porte très fermée à double tour. Donc, ce sera un peu plus facile. Dans ce climat-là, on peut parler aisément de la sexualité.
Isidore Mamana, psychologue et éducateur à la vie, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions et bon début de week-end à Mbujimayi.
Allez, merci, je dis au revoir aux auditeurs de la radio au Capitaine.